Les contes ne sont pas faits.
Les contes ?
Pour endormir les enfants.
D'Albatros.
Mais pour réveiller les adultes.
Les contes d'Albatros.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Rennes. Je suis Albatros et comme tous les mardis midi, à l'heure où les sirènes de la sieste viennent nous envoûter, je m'en vais vous conter les récits, fables et autres légendes que j'ai pu glaner au fil de mes recherches, que j'ai pu glaner au fil de mes voyages. La semaine dernière, nous avons commencé une série de trois émissions consacrées à l'argent, appelées « Les bons comptes font les bons amis ». Nous avons suivi Nasreddin, Jean le Foll, ou encore l'avare qui ne savait pas nager, dans des mondes à la fois proches du nôtre et bien différents. Dans des mondes où on peut voir le petit gagner, et où le riche, le bec, se faire clouer. Alors aujourd'hui, pour donner du grain à moudre au moulin de nos ménages, au diable le vraisemblable, car nous ferons de la contrebande de sable, nous assisterons au procès d'une pierre et nous demanderons combien coûte l'odeur d'une galette saucisse. Les bons comptes font les bons amis, deuxième partie. Ouvrez vos oreilles, car une histoire va commencer. Le douanier n'est pas vieux, mais il n'est plus vert non plus. À son poste, à la frontière brésilienne, il en a vu passer des filous. Des contrebandes de toutes sortes, drogues, contrefaçons, il les a toutes arrêtées. Et il n'en est pas peu fier. Il lui reste encore quelques années avant la retraite, mais déjà il peut se targuer d'avoir un flair infaillible. Si quelque chose se trame, il le sait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quelque chose lui chatouille son flair, justement. Il voit passer, à son poste frontière, une petite vieille. Une petite vieille en mobilette, avec un sac rempli sur la mobilette. Et il sent que quelque chose ne va pas. Son sixième sens lui dit « Va vérifier ça ». Alors il se lève et d'un coup de sifflet arrête la vieille. « Madame, que transportez-vous dans votre sac ?»«
Oh, moi, monsieur !»
Je transporte du sable. Transporter du sable n'est pas un crime au Brésil, mais le douanier sent le coup fourré. Ouvrez votre sac, s'il vous plaît. Le sac est effectivement rempli de sable. Il y plonge la main, cherche dans tous les recoins, mais rien. Eh bien, madame, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez reprendre votre route. Et la vieille repart sur sa mobilette. Le douanier tord et retord cette affaire dans sa tête dans tous les sens, mais impossible d'y voir plus clair. Pourtant, son flair ne l'a jamais trompé. Il sait que quelque chose cloche. Et quand la vieille revient le lendemain, même scooter et même sac rempli de sable, il n'en peut plus. « Madame, arrêtez-vous, ouvrez votre sac, s'il vous plaît. » « Monsieur, je croyais qu'il n'y avait rien de mal à transporter du sable. » « C'est vrai qu'il n'y a rien de mal, madame, mais quelque chose ne va pas. » Il plonge encore la main dans le sable. Il vide le sable sur la table, mais rien. Il n'y a que du sable et rien d'autre. Très bien, vous pouvez repartir. Et tous les jours, ce manège continue. Tous les jours, la petite vieille arrive avec un sac plein de sable sur sa petite mobilette croulante. Et tous les jours, le douanier s'énerve, plonge la main dans le sable, tamise le sable, le dilue dans de l'eau, le pèse, le photographie, rien. Il n'y a que du sable. Jamais la même quantité, mais toujours du sable, pur et net, rien de mélangé dedans. Et le douanier s'énerve. Et le douanier rage, il n'endort plus la nuit. Et ce manège continue pendant des jours et des jours, pendant des semaines et des mois. Et ce manège continue pendant des années. Le douanier devient vieux et aigri. Et cette histoire de sable l'empêche de dormir. Il a perdu du poids et ses cheveux sont devenus gris depuis. Mais les années avancent, les années passent, inexorablement. Et vient le jour de sa retraite. Lors de son dernier jour de travail, la petite vieille revient, comme à son habitude, avec son scooter, un sac plein de sable. « Madame, je vous en prie, » dit le douanier. « Expliquez-moi, mon flair ne m'a jamais trompé, je sais qu'il y a quelque chose, mais ce sable, il n'y a rien dedans, je ne comprends pas, j'y ai plongé la main, je l'ai tamisé, dilué, pesé, photographié, rien, je vous en prie, dites-moi, je vous jure que je ne vous ferai rien, je pars en retraite, je veux juste savoir. »
« Vous voulez juste savoir ?» demande la petite vieille.
Oui, s'il vous plaît. Eh bien, c'est très simple. Je fais du trafic de sacs. Le saltimbanque avait sa routine réglée comme du papier musique. Il arrivait dans une nouvelle ville, y faisait quelques tours, cabrioles et quelques chansons, récoltait les pièces d'or que les passants voulaient bien lui jeter, et utilisait ces mêmes pièces d'or pour se payer le soir un bon repas chaud, un lit douillet et quelques filles pour réchauffer son lit. Et les quelques pièces qui lui restaient lui servaient à aller jusqu'à la ville suivante, où il recommençait son petit manège. La vie était simple, la vie était belle. Mais un jour, le saltimbanque s'était laissé surprendre par la nuit qui tombait et il n'avait pas réussi à atteindre le village avant que l'obscurité n'envahît la forêt. « Qu'à cela ne tienne, dit-il, je m'en vais dormir ici sur ce tapis de feuilles, il me fera un lit des plus douillets et j'arriverai à la ville au matin. » Il l'avait déjà fait, ça ne lui faisait pas peur. Il rassemble quelques feuilles mortes pour se faire un lit douillet et du fond de sa poche sort les quelques pièces d'or qui lui restaient de la ville précédente. Il décide de les cacher sous une grosse pierre plate, une pierre qui pourrait lui servir d'oreiller par la même occasion. Ainsi, il pourrait dormir sur ses deux oreilles. Et le saltimbanque s'endort, heureux et béat. Sauf que le tintement des pièces d'or sur la pierre avait attiré l'attention d'un voleur, d'un malotru, et l'éclat doré des pièces l'avait fait venir jusqu'à la cachette où dormait le saltimbanque. Caché derrière un buisson, il observait ce jeune homme qui ronflait comme un loir. Et il attend, tapis dans les buissons, que le jeune homme bouge, que le jeune homme se lève. Toute la nuit, il attend, et ce n'est qu'au matin que le jeune homme se lève, s'étire et part à la rivière faire ses ablutions. Le voleur, sur la pointe des pieds, s'approche, soulève la pierre, rafle les pièces et s'en va sans demander son reste. Le saltimbanque, lui, n'a rien vu et une fois sa toilette effectuée, il revient jusqu'à sa couche de fortune pour reprendre la route. Mais au moment de soulever la pierre, ah, horreur, ses pièces ont disparu. Mais sans ses pièces, il ne pourra rien demander à manger. Sans ses pièces, il ne pourra peut-être même pas dormir dans un vrai lit la nuit suivante. Et encore pire, il n'aura personne pour réchauffer son lit. Sans ses pièces, toute sa routine est cassée. Comment est-ce qu'il va faire? Et à tant de barouf, à tant s'exciter comme ça, à tant s'énerver, il commence à ramener tous les voisins des environs, tous les fermiers qui entendent un bonhomme comme ça crier dans la forêt. Et ils arrivent tous avec leurs fourches, avec leurs ânes, avec les femmes et les enfants, hein, même avec le chat qui vient écouter ce qui se passe. Et le saltimbanque continue à beugler à qui veut l'entendre, à qui mieux qu'il a volé, il pose la pièce sur la pierre, il est parti à la rivière, continue. Et tout le monde se rapproche. La foule grossit autour de ce personnage étrange qui beugle une langue inconnue. Et tout le monde arrive, et finalement, le barouf est tel que le seigneur du village voisin, la prochaine étape du saltimbanque, finit par avoir vent qu'il y a un homme bizarre qui gesticule dans la forêt, et lui-même se déplace avec sa garde rapprochée. Quand il arrive avec tous ses gardes, le saltimbanque est loin d'avoir terminé sa diatribe. « Jeune homme, que se passe-t-il » demande le seigneur. « Écoutez, monsieur, c'est absolument très simple. J'ai lit de feuilles douillées, une pièce. Calme-toi, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur, on m'a volé. »« Que se passe-t-il ? Je ne comprends rien. Explique-moi ce qui se passe. Monsieur, c'est très simple. J'avais décidé de dormir ici pour arriver à votre village le lendemain matin. J'ai posé mes pièces sous la pierre, je suis parti me laver et quand je suis revenu, les pièces n'étaient plus là. »
Quand tu es revenu, les pièces n'étaient plus sous la pierre.
Eh bien non, plus rien, plus aucune pièce. Eh bien écoutez, je ne vois qu'une solution. Garde, arrêtez cette pierre.
Les gardes se regardent, interdits.
Est-ce que vous êtes sourd ? Arrêtez cette pierre, elle sera jugée pour vol.
Les gardes s'empressent, sous le regard des badauds amusés, le sourire en coin. Et une demi-douzaine de gardes se massent autour de cette grosse pierre plate et la soulèvent avec difficulté pour l'emmener jusqu'à la place du village. La place du village où l'on rend les décisions de justice. Une foule de badauds amusés a suivi les gardes, le roi, le saltimbanque et la pierre. On se donne des petits coups de coude amusés, des regards en coin. Ça risque d'être amusant. La foule s'installe sur la place. Le roi s'installe sur son trône. Les gardes s'installent autour du roi. À gauche s'installe le saltimbanque. À droite s'installe la pierre jugée. Je déclare le procès ouvert. Pierre, quel est ton nom ? La pierre, bien évidemment, ne répond pas. Et la foule frémit d'un petit rire. Pierre, quel est ton âge ? La pierre, bien évidemment, ne répond pas. Et la foule commence à ricaner. Pierre, d'où viens-tu ? La foule commence sérieusement à rigoler. Un enfant même éclate de rire dans le fond. Pierre, tu es jugé pour vol. Que plaides-tu ? Coupable ou non coupable ? Là, les gens commencent sérieusement à rigoler. Ils se regardent en coin. Est-ce que c'est une blague ou pas ? Silence ! Demande le seigneur. Ceci est un tribunal. Ceci est une décision de justice officielle. Et vous savez bien qu'il est interdit de rire dans le tribunal. Les gens contiennent leur fou rire. Et le procès peut reprendre. Pierre, tu sais bien que par les lois qui sont les nôtres, en cas de silence, tu seras plaidé coupable. As-tu quelque chose à rajouter pour ta défense ? La pierre, bien évidemment, ne dit rien. Et les gens ont du mal à contenir leur fou rire. Eh bien, Pierre, devant une attitude aussi bornée, je ne vois qu'une solution. Tu es condamné coupable. Et je te condamne à 30 coups de fouet, puis la mort par décapitation. Alors là, c'est l'éclat de rire. Les gens éclatent sur la place. Les gens rient, mais rient. On se tape sur les cuisses, on se tire les côtes. Les enfants tombent par terre tellement ils rigolent. Un vieillard s'appuie sur sa canne, tremblant tellement il rit. Il en perd son dentier. Et les gens rigolent, rigolent. On n'a jamais autant ri dans le village que ce jour-là. Et le roi, impassible, observe le village qui rit, observe toute la foule hilare, et ne dit mot et ne bouge pas. Et les rires finissent par s'éteindre. Et quand le dernier enfant a lancé au ciel son dernier éclat de rire, le roi, on ne peut plus sérieux, s'adresse à eux. Je vous avais pourtant prévenu. Il est strictement interdit de rire durant une décision de justice. Vous êtes tous, par la présente, condamnés à une amende d'une pièce d'argent pour avoir ri lors d'un tribunal. Alors là, les gens ne rigolent plus du tout. Ils font tous la queue, tête basse, pour aller payer leur amende au roi. Et une fois leur amende payée, une fois la pièce d'argent déposée sur la table, ils retournent tous chez eux, tête basse. Alors le roi amasse les pièces d'argent dans une petite bourse qu'il tend au saltimbanque. Tiens, jeune homme, ces pièces sont pour toi. Dans cette ville, nous n'avons pas su te rendre justice, mais au moins nous pouvons t'offrir un dédommagement. J'espère que tu ne garderas pas un trop mauvais souvenir de notre village. Maintenant, prends cet argent et continue ta route. Adieu, saltimbanque. Et le roi rentre chez lui. Le saltimbanque prend l'argent et continue son chemin. Ne reste sur la place que les gardes et la pierre. Ils se regardent, interloqués, et dans le doute, donne 30 coups de fouet à la pierre pour suivre la décision qui avait été donnée. Mais quand vint le moment de décapiter la pierre, les gardes décidèrent après réflexion de n'en faire rien et simplement de l'afficher en dehors de la ville. Ils l'ont laissé ainsi au bord du chemin pour faire réfléchir à deux fois les voleurs qui voudraient s'aventurer dans le village. Rick,
Kudos.
Après des mois de conquête et de voyage, après des semaines de guerre et de bataille, Alexandre le Grand et son armée arrivent conquérants, arrivent invincibles dans la ville indienne de Punjab. Personne ne lui a résisté, mais son voyage n'est pas terminé. Il ne finira que quand le monde entier sera à lui. Alexandre le Grand, empereur du monde. À Punjab, ce jour-là, c'est jour de marché. Des étals colorés, remplis de senteurs et de bruits, remplis de fruits et d'animaux, s'étalent tout le long du marché. Alexandre le Grand se promène, entouré de ses gardes, entouré de ses porteurs, quand il arrive devant l'étal d'un vieux marchand, courbé par les années. Il y a un bric-et-brac impossible sur ce stand, mais Alexandre le Grand repère dans un bocal deux yeux qui flottent dans du liquide. Combien pour ces yeux ? Monseigneur, je n'ai pas de prix à afficher pour ces yeux. Posons-les sur la balance et versez de l'or de l'autre côté. Quand l'or sera plus lourd que les yeux, ils seront à vous. Va, dit Alexandre le Grand. Et il sort de sa poche une bourse de pièces d'or et pose la première sur le deuxième plateau de la balance. Les yeux restent plus lourds. Alors il pose une deuxième, troisième, quatrième pièce d'or. Les yeux restent plus lourds. Alors agacé, il
vide sa bourse de pièces d'or sur le deuxième plateau de la balance. Les yeux restent plus lourds. Alors il demande à ses porteurs d'amener une deuxième bourse d'argent qu'il pose entière sur le plateau de la balance. Les yeux restent plus lourds. Alors agacé, il fait venir des sacs et des sacs d'or, et les sacs se déversent, les sacs remplis d'or, d'argent, de bronze, de pierres précieuses sur le deuxième plateau de la balance, mais les yeux restent plus lourds. Enfin, je ne comprends pas, s'énerve Alexandre le Grand. Mon or n'est-il pas plus lourd que ses yeux maintenant ?
Il n'y a rien à comprendre, répond le marchand. Ces deux yeux sont tes yeux, et tu es si avide de richesses et de conquêtes que tout l'or du monde ne suffira pas à les combler.
Dans mon pays, dans le pays de Rennes, il y a des riches, puis il y a des pauvres. Les riches, ils font des trucs de riches. Ils font du cheval, ils font du golf. Ils ont des polos Ralph Lauren, et quand ils vont au TNB, moins ils comprennent, plus ils aiment bien. Par contre, les pauvres, bah, s'ils ne comprennent pas, ils disent qu'ils ne comprennent pas, et puis ils ne reviennent pas. Mais il y a un endroit où les riches et les pauvres se mélangent et se retrouvent toujours, et c'est le marché des Lys. Le samedi matin. Là, on peut croiser tout le monde. Des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, des petits, des grands. Là, on peut voir tout le monde. Et il y a un endroit qui rassemble plus que le communisme, c'est le stand des galettes saucisses. Aux galettes saucisses, le samedi matin, on a fait plus de progrès pour l'égalité entre les hommes que Marx n'en a pu faire dans toute sa carrière. Et il se trouve que ce matin-là, ce samedi-là au marché des Lys, il y avait une grande queue pour les galettes saucisses. Mais il y avait un jeune homme qui était encore plus pauvre que les pauvres de tout à l'heure, qui lui n'avait pas vraiment de sous pour s'acheter une galette saucisse et qui n'avait au fond de son sac qu'un vieux croûton de pain un peu sec. Alors il s'approche du stand. Il ne fait pas la queue, de toute façon il n'a pas de sous. Il se met à humer la bonne odeur qui sort du grill comme ça. L'odeur de la saucisse bien grasse, l'odeur de la galette bien chaude. Et alors il sort son bout de pain, il le plante sur une fourchette et il approche le bout de pain du grill où les saucisses cuisent. Et il laisse son pain comme ça mijoter dans la vapeur des saucisses. Et le pain se gorge de gras, se gorge d'odeur. Et une fois que le pain est saturé d'odeur de saucisses, le jeune homme croque dedans et le mange en souriant. Sauf que le vendeur de galettes saucisses, il ne le voyait pas de cette oreille. « Hep là, jeune homme, c'est l'odeur de mes saucisses que t'as pris dans ton pain. Il faut que tu me les payes maintenant. »« Mais enfin, c'était mon pain, » répond le jeune homme. « J'ai juste mis ça au-dessus de vos saucisses. De toute façon, l'odeur, elle est là quoi qu'il arrive. »« Non. C'est mes saucisses. Tu dois me payer l'odeur de mes saucisses. » Et la discussion s'envenime et les deux hommes manquent d'en venir Thomas quand c'est au tour d'une petite vieille de commander sa galette saucisse. Et elle lui dit « Jeune homme, calmez-vous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Les deux hommes expliquent la situation de manière un peu véhémente. Alors la femme dit « Jeune homme, est-ce que vous avez une pièce sur vous ?» Alors le jeune homme au pain sort une pièce de sa poche. La petite vieille la prend et la fait rebondir sur le comptoir. Ting ! Et avant que l'homme des galettes saucisses n'ait le temps de l'attraper, la vieille la récupère et la rend au jeune homme. « Mais enfin madame, la pièce, je n'ai pas eu le temps de la prendre. »« Je sais bien, » dit la petite vieille. « Mais pour l'odeur d'une saucisse, » « je n'ai rien de mieux à vous offrir que le son d'une pièce. » L'homme est resté interloqué. Puis il s'est mis à rire. Le jeune homme s'est mis à rire. La vieille s'est mis à rire. Toute la file de gens qui attendaient s'est mis à rire. Et on est parti fêter ça au bar d'à côté pour aller, comme on fait par chez nous, boire un coup de cidre pour se réconcilier. Le banquier, il travaille dur, mais il aime ça. Il travaille dur, mais il se sent fier, parce que ce qu'il fait, c'est important. Lui, il gère des colonnes de chiffres, des lignes de lettres, et il fait des sous. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Il comprend ce qu'il fait, il sait pas trop où ça va et d'où ça vient, mais au moins il est fier. Et tous les étés, pour décompresser, il part en voyage. Un voyage où il n'a pas besoin de penser argent, un voyage où il n'a pas besoin de penser business, il part dans les pays en voie de développement, comme il dit. Et cette année-là, il a décidé de partir en Thaïlande. Alors, lui, il évite les grands tours de touristes parce que il n'est pas comme ça. Il préfère partir dans les petits villages où, effectivement, la vie ne coûte rien. Et il peut arriver avec ses liasses de billets et mener la belle vie. Et en Thaïlande, d'ailleurs, cette année-là, il arrive dans un petit village de pêcheurs. Alors il y loue une cabane, il y installe la climatisation, parce que quand même, faut pas déconner. Et il y passe une première semaine fort tranquille à boire des cocktails et à faire des promenades sur le bord de mer. Mais le matin, quand lui se lève pour boire son café en lisant le Financial Times, il voit que les pêcheurs du village vont travailler. Sauf que quand il termine son journal vers 14h, les hommes sont revenus et l'après-midi, ils ne travaillent pas. Et tous les jours, c'est comme ça. Le matin, ils travaillent, l'après-midi, ils ne travaillent pas. Alors le banquier trouve ça bizarre. Et il finit par aller les voir en leur demandant « Mais écoutez, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas l'après-midi ?»« Ah bah, répond le pêcheur, c'est bien simple. On n'a pas besoin. On pêche ce qu'il nous faut de poisson le matin. » Puis, bah, l'après-midi, on se repose. Mais vous voudriez pas travailler l'après-midi ? Bah, pourquoi faire ? Demande le pêcheur. Bah, c'est simple, si vous pêchiez aussi l'après-midi, bah, vous pourriez pêcher deux fois plus de poissons. Et puis, vous pourriez vendre deux fois plus de poissons. Bah, pourquoi faire ? Mais comme ça, vous auriez deux fois plus d'argent. Et vous pourriez peut-être acheter une deuxième canne à pêche pour mettre sur votre bateau. Bah, pourquoi faire ? Bah, si vous avez deux cannes à pêche au lieu d'une canne à pêche, vous pêcheriez encore plus de poissons, puis vous feriez encore plus d'argent. Bah, pourquoi faire ? Mais comme ça, vous auriez plus de poissons, et à la place d'acheter une troisième canne à pêche, ou même peut-être un deuxième bateau, du coup, vous pourriez engager quelqu'un qui pêcherait du poisson pour vous. Vous auriez deux bateaux, et vous ramèneriez encore plus de poissons. Bah, pourquoi faire ? Mais comme ça, avec plus de poissons, vous gagneriez encore plus d'argent. Vous pourriez même acheter un troisième ou quatrième bateau. Vous auriez même peut-être plus besoin de monter sur un bateau vous-même. Vous pourriez rester au port, diriger votre flotte de bateaux qui va pêcher du poisson tous les jours, qui vous ramène du poisson, vous le vendez, et puis vous gagnez beaucoup d'argent. Ben, pourquoi faire ? Non mais je veux dire, si vous gagnez beaucoup d'argent, et ben du coup, vous pouvez même peut-être engager quelqu'un pour vendre le poisson à votre place. Et vous, vous dirigez juste comme ça. Vous coordonnez l'équipe de pêcheurs, l'équipe de vendeurs, l'équipe de transformeurs. Peut-être vous pouvez faire des rillettes ou du pain de poisson. Ben, pourquoi faire ? Non mais comme ça, vous gagnez beaucoup d'argent. Et une fois que vous avez beaucoup d'argent, et ben à la fin, ben, vous pouvez partir en retraite. Ben, on fait quoi en retraite ? Et ben en retraite, quand on a bien travaillé, on arrive en retraite, et puis on peut se reposer. Pour se reposer ? Mais moi, je me repose déjà, toutes les après-midi. Mes histoires sont terminées pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les références des musiques et des contes passés dans l'émission sur la page des Contes d'Albatros, sur le site internet de Radio Campus Rennes. Vous pouvez également me suivre sur Facebook. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mardi prochain pour le troisième et dernier épisode de la série Les bons contes font les bons amis. Bonne semaine et au revoir.